Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la crise au Front National qui, malgré un score historique, sort ébranlé de la présidentielle et peut-être lui aussi, qui sait, à deux doigts d'une scission. Les différentes lignes, les différents courants, les différents leaders n'ont jamais semblé aussi éloignés les uns des autres. Et si les partis sont sortis profondément fracturés de la présidentielle, les mouvements comme En Marche et la France Insoumise, eux, se portent bien à tel point qu'on a cru comprendre que le FN pourrait muter à court ou moyen terme et prendre une forme mouvementiste, dont les contours et le contenu restent à définir. Vos questions ce soir, intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Rémi, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir
vous,
tout le monde.
Vous nous appelez de Lyon et nous vous écoutons. Soyez le bienvenu sur Inter.
Merci. Pour prendre un peu le contre-pied de l'introduction, à titre personnel, j'ai pas vraiment l'impression que le FN ait subi une si grosse défaite que ça dimanche, puisque le FN, après un quinquennat où il s'est renforcé au fur et à mesure, a doublé son score par rapport à celui de Jean-Marie Le Pen en 2002. La principale opposition au FN, qui est le Front Républicain, est en train de craquer de toutes parts avec une gauche radicale qui perd les pédales et une équipe Macron qui passe par perte et profit le vote utile. Le FN a en face de lui en plus son adversaire idéal pour 5 ans et des partis traditionnels qui pourraient s'y opposer, qui sont complètement dans le chou avec leur lutte d'intestine. Bien malheureusement, j'ai quand même que peur que le FN ait toutes les chances de continuer à progresser pendant les 5 ans qui viennent.
Merci beaucoup Rémi pour cette intervention. Pour vous répondre, invité de France Inter, Marine Turchi, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Mediapart, auteur avec Mathias Destal de Marine est au courant de tout, publié chez Flammarion. Aurélien Colli, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à France Inter. Laurent de Saint-Afrique, bonsoir.
Bonsoir.
Collaborateur de Jean-Marie Le Pen. Qui veut répondre à la question de notre auditeur disant que finalement tout se présente plutôt bien pour le Front National. Marine Turchi.
Je crois qu'il faut distinguer du point de vue des militants et du point de vue des électeurs. Du point de vue des électeurs, on le voit dans les urnes, hein, près de 11 millions de voix, c'est énorme, c'est beaucoup plus que le précédent record du Front National. Ils ont battu le record qu'ils avaient déjà battu au régional, donc incontestablement, c'est une progression. Du point de vue des militants et des cadres, c'est une déception, parce qu'ils avaient imaginé évidemment faire davantage qu'aux élections intermédiaires, et que ça fait 3 ans qu'on leur répète qu'ils sont le premier parti de France. Ils sont pas arrivés en tête au premier tour, et au second tour, ils n'ont pas accroché un écart resserré qu'ils auraient voulu accrocher pour entraîner une grosse dynamique. Donc c'est incontestable que là, au FN, je crois qu'on, nous, journalistes politiques, on en a eu un paquet au téléphone ces derniers jours, ils sont extrêmement déçus. Mmh. Ils sont extrêmement déçus vis-à-vis du débat de Marine Le Pen, mais pas seulement, vis-à-vis de la stratégie qui a été menée pendant la campagne, l'équipe de Philippot, mais au-delà de toutes ces décisions qui ont enchaîné plusieurs défaites. Oui, déçus et critiques aujourd'hui, mais pour rebondir sur l'usure et les nouveaux partis, etc., aujourd'hui, le Front National, il a quand même 44 ans. Et ça, il est en train, aujourd'hui, peut-être, de le payer et d'être ringardisé par des mouvements comme En Marche ou comme Les Insoumis. Et ça, je crois qu'on l'a peut-être pas assez chroniqué dans la campagne, justement, peut-être pas assez raconté, on n'a pas pris la mesure de ça. Et c'est vrai que Marine Le Pen, là-dessus, s'est fait un petit peu ringardiser par ces nouvelles formes de mouvements.
Aurélien Colli, puis Laurent de Saint-Afrique.
En même temps, ce que dit Rémi, c'est intéressant parce que c'est la différence d'analyse entre une Marion Maréchal Le Pen, par exemple, et une Marine Le Pen. C'est-à-dire que d'un côté, Marine Le Pen considère que finalement, avec 34% et 11 millions d'électeurs quasiment, eh bien, le FN est en progression. Ça veut dire que la stratégie fonctionne, celle du ni droite ni gauche notamment, inspirée par Florian Philippot. Et au sein du parti, comme le disait Marine, vous avez une frange des militants qui, eux, sont déçus, qui estiment que Marine Le Pen n'a pas été bonne avec cette ligne, qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux, notamment en allant chercher plus d'électeurs sur la droite. Et ça fait partie aussi des raisons qui ont poussé Marion Maréchal Le Pen à renoncer, à se retirer, parce qu'elle a compris aussi que Marine Le Pen ne faisait pas du tout la même analyse de ces résultats.
Alors on va venir évidemment à ce retrait de la vie politique annoncé hier soir, si je ne m'abuse, Aurélien Colli. Laurent de Saint-Afrique, votre analyse, votre regard, je rappelle que vous êtes collaborateur de Jean-Marie Le Pen, de la défaite du second tour et de ce qui se passe depuis au Front National.
Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que Marine Le Pen a considéré, parce qu'on le sent depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois, que le Front National l'handicapait. Autrement dit, que de la même manière qu'en excluant son père, elle a pensé se débarrasser d'une partie de ce passé, de cette image, elle continue à croire que son problème, c'est le Front National, et qu'il faut donc liquider la baraque, sortir des rails qui ont permis à ce mouvement pendant 40 ans de progresser constamment, car la progression existe, et qu'elle croit qu'il faut donner le dernier coup de bistouri et se détacher définitivement du Front National. Changer le nom, changer les statuts, liquider un certain nombre d'éléments du passé, dont l'exclusion de son père avait d'ailleurs été le principal symbole. Alors la question est de savoir, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle est ringardisée par des mouvements de type sociétaux, comme ce qui a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République, ou bien éventuellement le succès de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est adapté à la situation de la droite nationale? Bon, du côté de Jean-Marie Le Pen, on ne le croit évidemment pas du tout. Et d'ailleurs, puisqu'il est toujours président d'honneur d'un mouvement qui est menacé d'être supprimé d'un trait de plume, ou en tout cas par un congrès, il entend bien résister et exercer tout son rôle et toute la pression, puisqu'il a été rétabli par la justice, ou plus exactement consolidé dans un rôle qui n'avait jamais cessé, avec des pouvoirs statutaires qu'il exercera.
Expliquez-nous.
Il y a là un conflit, et la sortie provisoire, je pense, de Marion Maréchal Le Pen, l'impact militant qui suit cette annonce depuis hier est extrêmement frappant. Je crois qu'il y a une très forte déception de la base. Je crois qu'on sous-estime la capacité de leadership résiduelle désormais de Marine Le Pen à cause de l'absence de qualité de son débat. On n'a jamais vu ça, je veux dire. C'est un effondrement pareil dans la circonstance la plus historique, la plus solennelle de la vie politique française. Bon, je crois que beaucoup de cadres et de militants du Front National qui ont la télévision s'en sont rendus compte. Il serait intéressant d'ailleurs de savoir si M. Poutine a regardé ça, si ça lui fait approuver ou regretter le fait d'avoir reçu Marine Le Pen il y a quelques semaines, parce que sombrer dans un ridicule pareil, qui pouvait le prévoir?
Est-ce que vous êtes archi-minoritaire sur cette ligne, Lorrain de Saint-Affrique?
Non, je crois pas du tout. Je crois que, autant Jean-Marie Le Pen appartient pour partie à l'histoire, mais son magistère moral continue à toucher beaucoup de personnes au sein du Front National, notamment les jeunes d'ailleurs. Et on va le voir au moment des élections législatives, puisqu'il aura des candidats soutenus par Jean-Marie Le Pen dans de très nombreuses circonscriptions. Donc je crois que cette audience et ce rôle moral existent toujours. Il ne s'agit pas de gêner. Je crois que Jean-Marie Le Pen a été relativement discret dans la campagne présidentielle, parce qu'il ne voulait en aucun cas être à l'origine de difficultés pour la candidate Marine Le Pen. On est sorti de cette période. Les élections législatives ouvrent une période nouvelle, différente, dans laquelle sa parole peut porter et portera, je crois. Et puis il y a surtout les grands rendez-vous. Le Congrès, la refondation éventuelle, sur quelle ligne? Et là, on va voir toute l'importance du retrait de Marion Maréchal Le Pen, qui correspond à une sensibilité extrêmement forte, probablement majoritaire au sein du Front National, alors que la direction du Front National qu'incarne Florian Philippot, auteur de l'échec de la campagne présidentielle de Marine.
C'est lui ou Marine Le Pen?
C'est une combinaison des deux, forcément.
C'est une coproduction,
c'est
cet
échec. C'est une coproduction, parce que la responsable, c'est la présidente, c'est Marine Le Pen. Maintenant, avoir laissé un tel équilibre s'établir et ne pencher que dans un sens, c'est-à-dire au fond la ligne de gauche qui s'est emparée du Front National depuis des années maintenant, avoir laissé se développer des parachutages au moment des régionales en particulier, qui ont désespéré la base, au détriment de gens parfaitement capables, parfaitement valables, mais qui ont trouvé ringard, justement, parce que le militantisme au Front National, désormais, c'est une preuve de ringardise. On préfère un diplôme non achevé, et puis quelques performances télévisées en étant passé par le coiffeur, comme disait Coluche. Vous savez, ils font de la politique avec leur peigne, ils disaient ça à certains journalistes.
Marine Turchi, et puis on repart au Standard où il y a quelques questions sur Marion Maréchal Le Pen.
Il y a une intéressante analyse de l'historien Nicolas Lebourg qui a été faite justement cette semaine et qui dit précisément que le Front National, il a pensé qu'on pouvait prendre justement là-dessus, gagner les élections par le haut, et il a oublié un peu la base. Et c'est vrai que ce qui avait fait la stratégie victorieuse de Marine Le Pen jusqu'à présent, c'était une implantation locale. Et aujourd'hui, on voit qu'elle a un petit peu oublié ça, et que cet enracinement local qui est suivi par certains maires comme Robert Ménard localement, des maires soutenus par le FN, il n'est pas suivi par tous, et qu'on les a un petit peu... On peut oublier cette implantation. Et puis l'autre chose, c'est que certains demandent un positionnement clairement à droite, en disant qu'on est trop allé chercher au Front National les voix des mélenchonistes à l'entre-deux-tours, et pas assez les voix des indécis à droite et des déçus des Républicains et ceux qui sont justement l'aile droite de la droite. Mais sur la refonte justement du Front National, c'est une question qui va nous occuper, je crois, pendant des mois. Marine Le Pen a un petit peu sorti ça très vite dimanche soir, comme pour éviter les questions qui fâchent. Pour l'instant, elle parle d'un éventuel changement changement de nom. Et beaucoup disent au Front National dans son équipe de campagne, mais est-ce qu'elle va pas masquer l'absence de refonte générale, globale, profonde, nécessaire, par un simple changement de nom qui lui permettrait peut-être de dissoudre le Front National, de l'appeler autrement, de ne plus être héritière d'un parti finalement, et puis de dégager son père par la même occasion d'ailleurs.
Oui, ben ça c'est le saut dans l'inconnu. Puis vous parlez d'implantation locale. Alors Laurent pourquoi un tiers des élus des élections municipales dernières ne sont plus au Front National ou ont quitté les conseils municipaux? Ça prouve que quand même, il y a un petit problème du côté de l'implantation locale. Les élections municipales ont été de bonne qualité, avec, sur le plan technique, la capacité du Front National à présenter des listes dans très nombreuses villes, ce qui mobilise énormément de monde. Et puis, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, un tiers de ces élus ont quitté les conseils municipaux ou le Front National.
Aurélien Colli.
Alors, beau succès de l'implantation locale.
Aurélien Colli, un mot.
Juste ce que disait Monsieur de Saint-Affrique à propos des régionales, on le retrouve en ce moment sur les investitures aux législatives, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au sein du Front National, ces investitures sont l'enjeu de conflits entre les différentes lignes et des dernières listes qu'on a pu avoir, même si elles sont pas publiques, ou des derniers noms qu'on a pu avoir, on a bien compris que c'est Florian Philippot essentiellement qui avait réussi à imposer ses hommes dans les circonscriptions les plus « gagnables », entre guillemets. Donc, a priori, on va vers des députés plutôt philippotistes. Tout ça pour remettre dans la perspective du conflit avec Marion Maréchal-Le Pen.
Un petit mot sur le sujet,
rapidement,
si vous permettez.
S'il vous plaît, puis on repart
très,
au standard.
Très vite. Il y avait hier, je crois, une commission d'investiture du Front National. Le président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, aurait dû y participer. Je rappelle à cette occasion qu'il y a une décision de justice, que chaque infraction a un coût financier, que toute décision prise en son absence constitue une infraction et que nous tenons actuellement sur un petit carnet les additions qui seront présentées tôt ou tard aux intéressés.
On vous laisse le gérer en famille. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Toulouse.
C'est bien ça, oui. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. Et merci de nous laisser gloser, comme vous dites. Voilà. Donc c'est justement, vous avez un peu abordé le sujet, au sujet du retrait temporaire, j'insiste sur le mot temporaire, politique de Madame Marion Maréchal Le Pen. Et je me demandais si ce n'était pas tactiquement pour elle, une tactique pour revenir en créant son propre parti, tout simplement. Voilà ma question.
Merci Dominique. Qui se lance, Aurélien Colli?
Alors peut-être pas pour créer son propre parti, mais en tout cas certainement pour éviter une période qui va être un peu compliquée à gérer pour le Front National, c'est-à-dire les prochains mois. Et là, à la limite, je laisserai plutôt la parole à Marine là-dessus. C'est la question des affaires judiciaires. On l'oublie un petit peu, on l'a mise un peu entre parenthèses pendant la campagne, mais le Front National a des vrais soucis et des vrais soucis à se faire. Et même Marine Le Pen elle-même, qui pour l'instant n'a pas été mise en examen parce qu'elle n'a pas répondu aux convocations, mais qui risque d'être mise en examen et qui à terme risque aussi peut-être de l'inéligibilité.
Les raisons personnelles ont tellement été surlignées au stabilo-boss en fluo pour expliquer le retrait de Marion Maréchal Le Pen qu'on se demande au fond, Marine Turchi, ce qui l'a motivée et quel coup d'avenir se prépare à travers ce retrait ponctuel, j'imagine.
Il y a des raisons personnelles hein, et ça lui appartient. Elle l'a expliqué dans plusieurs entretiens. Nous, c'est ce qu'on entend un peu plus depuis plusieurs mois, qu'il y a un certain ras-le-bol, la tentation de Venise, etc. Après, il y a des raisons plus politique. Alors, il y a effectivement le fait qu'elle s'en ait pris plein la poire, disons-le franchement, par sa tante, par les équipes de Philippot. C'est un affrontement depuis des mois. Elle est arrivée première au vote du comité central au Congrès en 2014. Et là-dessus, il y a une grosse jalousie de Florian Philippot qui a dit « mais il y a un coup de pouce du nom, il y a un coup de pouce de s'appeler Le Pen, moi je m'appelle pas Le Pen ». Donc depuis, c'est compliqué, ces oppositions personnelles et politiques. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de sa circonscription à Carpentras. Est-ce qu'elle est sûre de l'emporter si elle se présente? Ça, c'est une question importante, parce qu'effectivement à Carpentras, je ne crois pas dire de bêtises en disant que Emmanuel Macron est arrivé devant Marine Le Pen, et que en 2012, Marion Maréchal Le Pen l'a emporté que de quelques voix, avec à la faveur d'une triangulaire avec le PS et l'UMP. Donc il y a cet élément-là qui est plus personnel, et puis il y a autre chose, c'est très facile pour elle à 27 ans de dire, ben moi je vais aller dans la vie active, parce que finalement je n'ai jamais travaillé, je ne vais pas comme ça m'accrocher comme une moule à son rocher sur mes mandats, je vais aller un peu voir dehors, et puis je vais revenir dans quelques années, et là je serai peut-être en force, puisqu'aujourd'hui il y a la pyramide des âges quand même, et Marion Maréchal Le Pen, on lui confierait pas là tout de suite, j'imagine, au Front National, même si elle est très suivie, le porte-drapeau pour aller à la présidentielle, la prochaine présidentielle. Donc c'est assez malin de sa part finalement, c'est un double...
Et c'est un coup politique, vous pensez En plus d'être un
choix personnel.
Un choix personnel.
Oui, je pense que c'est motivé par les deux, mais c'est assez bien joué parce qu'elle a une popularité énorme au sein du parti. Et même au-delà, on peut le constater en suivant les manifs contre le mariage pour tous, elle s'est créée une véritable aura à ce moment-là. Elle est vraiment hyper bien accueillie. Mmh. Donc, elle a tout intérêt aujourd'hui à être saluée sur cette décision qui est vue par certains comme très respectable. À se retirer quelques temps et à revenir forte d'une expérience de la vie active qu'elle aura acquise.
Mmh. Lorrain de Saint-Affrique.
Oui, ce qu'on peut dire depuis 2012, si on regarde tous les partis politiques, les révélations politiques qui se sont manifestées au cours de cette mandature, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est celui de Marion Maréchal Le Pen, c'est indiscutable. Je veux dire qu'elle a véritablement fait un parcours tout à fait remarquable. Bon, chacun a constaté à quel point elle était douée, brillante, aidée par un physique extrêmement efficace quand il s'agit de faire de la télévision.
Elle n'a pas toujours été, elle l'a pas toujours été au début, c'était quand même difficile.
Mais la capacité de progression dans la vie, c'est tout de même un signal qui est intéressant, notamment quand il s'agit de prendre des responsabilités. Je crois que ce qu'a dit Marine est vrai, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des options personnelles. Elle a perdu son couple, au fond, pendant cette mandature. Elle était mariée, elle a divorcé, elle a une petite fille. Les arguments personnels qu'elle donne sont parfaitement acceptables. Ensuite, le fait de ne pas vouloir participer au combat de chien qui va forcément se produire à un moment ou un autre au sein de ce mouvement et qu'on sent venir d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme que ça prendra, il est bien évident qu'il y a de telles disparités de lignes politiques incarnées par des personnes qui ont des conflits personnels extrêmement violents, extrêmement forts. Bon, tôt ou tard,
il y aura des secousses. On se dirige vers un combat de chien, pour reprendre votre expression ?
Non, je crois que ça peut arriver, oui.
Mais ça va être, on est à un niveau de violence à l'intérieur d'une famille qui est quand même qu'il faut
oui, mais
souligner,
les médias y participent beaucoup, parce qu'il est bien évident que tout ça est en public, ça donne un effet de loupe. Bon, les choses sont peut-être un petit peu moins tendues que le public ne peut le percevoir à travers les médias. Mais il n'empêche tout de même qu'en effet, mais tout ça est politique d'abord. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen l'a souvent dit, ça n'est pas un conflit personnel ni familial qui l'oppose à Marine Le Pen, par exemple. C'est un conflit politique. C'est une analyse totalement antagoniste, portée par l'un et par l'autre, qui a débouché effectivement sur des attitudes publiques qui peuvent paraître violentes, mais qui se limitent à la politique. Je crois que c'est la même chose pour Marion Maréchal Le Pen. Elle se retire d'abord parce qu'elle est à une étape de sa vie où elle peut le faire. Elle a 27 ans. Elle peut parfaitement, effectivement, sortir du champ politique un certain temps, l'observer de l'extérieur. Vous savez, quand on a fait ce qu'elle a fait, on garde un œil sur tout ça. Je crois qu'elle a tissé des liens très forts dans le sud de la France avec beaucoup de gens qu'elle ne va pas laisser comme ça tomber. Elle a d'ailleurs dit qu'elle participerait aux campagnes électorales de ceux qui lui demanderaient des soutiens. Elle le fera. Elle va sortir petit à petit du champ du Conseil régional où elle préside le groupe Front National, qui est le seul groupe d'opposition. Bon, et puis elle va transmettre ses responsabilités jusqu'à ce qu'elle sente, après une expérience dans le privé, que le moment est venu de faire la synthèse de tout ça, et éventuellement de revenir.
Michel, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Messieurs, dames.
Il y a une dame,
Marine Turchi est là.
Messieurs, dames, je vous prie de m'excuser.
Aucun problème. Non, il n'y a pas de problème.
J'aurais souhaité savoir où sont les procédures contre le Front National et entre autres contre la présidente, et savoir ce que risque Madame Le Pen. De plus, quelqu'un pourrait-il nous dire combien le Front National a souscrit comme emprunt ?
Pour faire campagne ?
Quelqu'un le sait, oui, pour que ce soit pour faire campagne ou gérer peut-être de manière plus efficace la gestion des comptes du Front National.
Merci Michel pour cette double question. Où en sont les procédures contre le FN et en particulier Marine Le Pen ? Et la question des emprunts. Marine Turchi.
Les emprunts, déjà, je pense qu'il faut retourner la question chez Jean-Marie Le Pen, puisque la campagne présidentielle, elle a quand même été financée, malgré tout ce vaudeville et ses oppositions politiques, par Jean-Marie Le Pen, enfin par son micro-parti Cotelec, qui a prêté 6 millions d'euros pour la présidentielle à Marine Le Pen. Et puis, nous, on a révélé un certain nombre d'emprunts russes de ces dernières années sur Mediapart, mais il n'y a aucune transparence là-dessus du côté du Front National. On ne sait pas, en réalité, comment la présidente du Front National a financé sa campagne, puisqu'elle a dit qu'elle n'avait pas obtenu de prêt des banques françaises et que donc elle s'était tournée ailleurs. Et puis on n'a plus rien entendu. Nous, à Mediapart, on a posé les questions, on n'a eu aucune réponse. Sur les procédures judiciaires, il faut dire et répéter ce chiffre parce qu'il est quand même conséquent. Il y a 6 procédures judiciaires en cours, rien que sur les volets financiers. c'est-à-dire le patrimoine des Le Pen, les assistants parlementaires européens, les assistants au conseil régional, avec le même système au niveau régional dans le Nord-Pas-de-Calais, les affaires de financement de campagne, avec le micro-parti Jeanne, sur l'année 2012, sur l'année 2014, sur l'année 2015, c'est-à-dire que toutes les campagnes, depuis que Marine Le Pen a pris la tête du Front National, font l'objet d'une procédure judiciaire. Alors, où ça en est? Celle sur les assistants, c'est une information judiciaire. Les juges ont convoqué Marine Le Pen, qui, comme vous le savez, s'est pas rendue à cette convocation. La levée de l'immunité a été demandée par les juges. Et ça, c'est une procédure qui va prendre plusieurs mois, qui est en cours. Et donc, ça va aboutir à l'automne, à peu près. Donc, toutes ces affaires, elles sont en train de, voilà, d'avancer. Celle qui est peut-être la plus menaçante dans l'immédiat, c'est celle des assistants parlementaires européens, parce que le montant de la fraude présumée, je dis bien présumée parce qu'on est encore au sein de l'enquête là, c'est quand même 5 millions d'euros. Donc là, les juges s'interrogent. Est-ce qu'il y a eu un financement déguisé et illicite du Front National en faisant rémunérer ses cadres au Parlement européen? Ce qu'on peut en tout cas dire, c'est que Marine Le Pen, qui dénonce toujours les affaires des autres, là, elle est en plein dans plusieurs affaires judiciaires, elle ou son parti.
Aurélien Colli, Lorrain de Saint-Affrique.
Oui, juste sur l'affaire du micro-parti Jeanne et des surfacturations, notamment de kits de campagne par Ewald, qui a d'ailleurs été révélé par Mediapart. Il y a quand même pas mal de cadres du FN, si pas Marine Le Pen, mais le Front National en tant que parti, le micro-parti Jeanne, la société Ewald de son ami Frédéric Chatillon, qui eux ont déjà été renvoyés en correctionnel, si je ne me trompe pas.
Voilà, sur cette affaire-là, effectivement, c'est renvoyé en correctionnel.
Lorrain de Saint-Affrique, il y avait la question des emprunts pour commencer, et puis celle des procédures.
Bon, alors, s'agissant des emprunts, effectivement, Cotelec, qui est le micro-parti de Jean-Marie Le Pen, a prêté 6 millions d'euros à Marine Le Pen pour la campagne présidentielle. S'agissant des comptes de campagne de Marine Le Pen, ils seront rendus publics dans quelques mois, puisqu'on a 2 mois, je crois, après le jour où l'élection a été acquise pour déposer son compte de campagne. Et tout ça sortira au journal officiel le moment venu. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises à attendre de ce côté-là.
On verra si les emprunts russes sont remboursés alors.
Non, parce que ça, sont les comptes du Front National, c'est pas la même chose. Là, on parlait de la campagne présidentielle.
La campagne, mais en tout cas, sur les emprunts russes.
Moi, j'ai pas d'informations là-dessus. Je veux dire que Cotelec, c'est une chose. D'ailleurs, je n'ai pas toutes les informations concernant Cotelec, ça n'est pas directement ma responsabilité, sur les histoires d'assistants parlementaires. Nous avons affaire à une confrontation politique. Bon, je crois qu'il est parfaitement clair que l'ancien président, qui maintenant est dans la politique allemande, Monsieur Schulz, a initié à la demande de Madame Taubira une pression politique extrêmement forte, qui vise d'ailleurs exclusivement et essentiellement les opposants politiques sur la question européenne de cette Assemblée. Bon, alors, la présomption d'innocence, ça existe. Nous avons eu, nous, quelques soucis avec Jean-Marie Le Pen sur ce sujet-là, comme vous savez. C'est au juge de prouver que les assistants parlementaires ne fonctionnent pas comme les règles du Parlement européen l'exigent. C'est pas l'inverse. Fait penser à l'affaire Fillon. C'est la même chose. Je veux dire, c'est au magistrat de démontrer que des fautes ont été commises.
L'enquête est en cours en même temps. Mais c'est vrai que tout en respectant la présomption d'innocence, on peut dire quand même que déjà il y a une enquête administrative européenne de l'OLAF, et puis qu'il y a une enquête en France qui amène déjà des éléments. C'est-à-dire que je trouve que le Front National là-dessus ne répond pas tellement sur le fond. C'est vrai qu'il répond, c'est le système, c'est la persécution bruxelloise.
Vous savez que le directeur de l'OLAF, qui bénéficiait d'une immunité diplomatique, c'était son statut, à la demande de la justice belge, a vu cette immunité levée parce qu'il dépassait les bornes en matière de procédure, vous voyez. Donc l'OLAF est un organisme, une sorte de police fédérale, alors que nous ne sommes pas un État fédéral.
Pour avoir lu le rapport de l'OLAF, qu'on a publié, qu'on a rendu public sur Mediapart, il y a des éléments extrêmement précis. Par exemple, on va peut-être pas rentrer là dans le détail de l'affaire, mais c'est quand même intéressant, les heures de badging de la chef de cabinet de Marine Le Pen, qui est censée être assistante à Strasbourg,
de cette enquête de manière à essayer de consolider l'accusation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoins de ça, ces portiques sont très récents, vous savez. Il faut aller voir sur place ce qui se passe. C'est un petit peu comme à la gare Montparnasse, vous savez, on vient d'en installer. Bon, au Parlement européen, ils font un effort de sécurité, alors qu'on pouvait parfaitement passer par les parkings il y a encore quelques mois.
Bon, on va laisser la justice faire son travail. Aurélien Colli.
Les effets d'annonce, c'est parfois très grave, parce qu'il reste une mauvaise réputation sur des choses qui n'existent pas.
Aurélien Colli, puis Andrés.
Ce qui est sûr, c'est que le Parlement européen estime que le préjudice est de 5 millions d'euros et que cet argent, il va le demander à un moment au Front National ou à ses élus. Donc ça pèse quand même sur le Front National.
Andrés, s'il vous plaît. Andrés, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonjour. Merci et bonjour à toutes et à tous. Voilà, juste petite réflexion sur ce que je viens d'entendre. Pour un micro-parti, 6 millions d'euros, je trouve ça énorme. Voilà. Maintenant, une autre réflexion. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis à moi. On se demandait comment Madame Le Pen, qui prône le renouvellement, qui prône ses idées, comment va-t-elle faire pour mener à bien et appliquer à elle-même ce qu'elle prône? Entre autres, il me semble qu'elle est présente parmi les médias depuis pas mal de temps. Il me semble que c'est une perdante. Voilà, c'est une perdante. La preuve, elle perd tout. Maintenant, dire qu'il y a 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le parti, c'est pas vrai. Il n'y a pas 11 millions de personnes. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient les raisons de la colère, pour dire le mot, car fondamentalement, on connaît les idées de ce parti et là où ses racines profondes vont. Et je crois que le peuple français n'est pas dupe de cela. Et il sera jamais dupe parce que le peuple français va s'ouvrir au monde, c'est sa destinée. Il est ouvert au monde depuis toujours, c'est son histoire. Mmh. Donc, ce parti n'est qu'un parti de contestation et d'une. Et quand j'entends parler de toutes ces affaires, mais j'ai l'impression qu'on parle des vieux partis qui ont été laminés au premier tour, c'est exactement la même chose. Des guerres, des comment il a dit le monsieur, des chiens, ils vont se battre comme des chiens, mais dans quel but? Dans quel but? C'est pour la France ou c'est pour eux? Donc voilà ma question.
Bien reçu, bien reçu. Oui, bien reçu, Andrés. Restez en ligne, on fait circuler la parole ici. Deux aspects donc dans l'intervention d'Andrés. Marine Le Pen est là depuis très longtemps, elle a échoué et elle reste. Ça c'est un premier point.
Elle a d'ailleurs été questionnée là-dessus sur TF1 avant le deuxième tour, il me semble, et elle était assez étonnée de cette question, finalement, qu'on lui pose jamais, puisqu'elle est toujours dans l'attaque des autres qui cumulent, qui ne se renouvellent pas. Elle a toujours mis en avant la jeunesse de son parti, et c'est vrai, mais simplement, elle, en revanche, elle est là depuis longtemps. Encore une fois, son parti a 44 ans, c'est un parti qu'elle a hérité de son père, et aujourd'hui, on aurait vu, alors bon, la nièce s'en va, mais enfin quand même, c'est une dynastie. Et puis c'est vrai que Marine Le Pen, on peut se dire qu'après deux échecs, elle pourrait se poser la question. Aujourd'hui, un membre de l'équipe de campagne me disait que justement, elle avait peut-être pris non seulement un petit coup de vieux, mais aussi un petit coup aussi sur sa connaissance des dossiers, puisque son image de présidentiable au débat a peut-être été écornée. Ça, c'est un membre de son équipe de campagne qui dit ça. Après, il faudra savoir si Marine Le Pen peut faire une vraie refonte de son parti qui ne passe pas par les purges. L'histoire du Front National, elle est ponctuée de scissions, mais aussi de purges. Et c'est vrai que là-dessus, encore une fois, certains m'ont dit aujourd'hui, mais est-ce qu'elle va réussir à faire avancer ce parti sans le purger? Si elle dissout le Front National et qu'elle crée un nouveau parti, est-ce que c'est pas pour débarquer des gens et en réembarquer d'autres et recommencer sans ceux qui gênent? Et là-dessus, je pense qu'effectivement, comme disait Aurélien, les députés seront extrêmement pro-Philippot, au profil équipe de Philippot, et qu'elle est capable, malgré la contestation, de continuer encore plus dans cette voie-là et de dire qu'elle ignore complètement une frange entière du Front National.
Aurélien Colli.
Juste dire qu'il n'y a que le Front National et certains de ses électeurs qui pensent que ce parti est anti-système. Si vous regardez, comme le disait Marine, l'histoire du parti, son fonctionnement en interne, à la limite ses méthodes pour se financer, qu'elles soient régulières ou pas, ses conflits internes, l'héritage familial, on est dans le parti mais purement du système. Donc finalement, c'est là l'erreur, c'est de penser que le Front National est un parti anti-système.
Marine Le Pen a toujours vécu sur ses mandats là-dessus. Depuis qu'elle a arrêté d'être avocate dans les années 90, à la fin des années 90. Elle n'a après ça jamais travaillé et toujours vécu de ses mandats. Aurélien, et d'ailleurs, quand elle travaillait comme avocate, c'était au Front National, au service juridique.
Pour revenir sur le deuxième aspect de la question, c'est parce que justement, c'est un parti qui est finalement tellement dans le système que ses campagnes, aujourd'hui, sont en millions d'euros. La campagne présidentielle législative du Front National, on est à peu près sur un budget d'une vingtaine de millions d'euros. C'est pas un petit parti, c'est pas un parti hors système.
Oui, Lorrain de Saint-Affrique, juste une question. Pourquoi est-il à ce point impensable qu'un ou une Le Pen démissionne après des échecs politiques ?
Oh, je crois pas que ce soit impensable, ça va peut-être même arriver avec Marine, d'ailleurs ce sera une nouveauté.
Ce sera une nouveauté, on est d'accord si au moins produit, sur ce plan. Je sais pas,
vous pensez que c'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse?
Je crois que oui, mais c'est une opinion personnelle. Je crois qu'effectivement, se poser des questions, notamment depuis le débat présidentiel, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose d'assez grave ce jour-là, et la question du leadership, de la capacité de l'exercer, se pose, ou se poserait dans n'importe quelle formation politique. Bon. Je ne vais pas ouvrir une polémique aujourd'hui, je crois que la réflexion est en cours. S'il s'agit de liquider le parti pour pas liquider sa présidente, ça peut être un réflexe de sauvetage, évidemment. Et puis le canot de sauvetage le plus proche, eh bien certains le prendront. Je crois que... On va voir ce qui se passe aux législatives. Parce que tout le monde fait la même erreur, c'est de regarder le chiffre du deuxième tour. Il n'y a plus que deux personnes au deuxième tour dans une élection. Bon, alors par la force des choses, il y a un effet mécanique qui fait que vous battez un record, vous avez 11 millions de voix, très bien. Le véritable socle, c'est le premier tour. Et d'autre part, la configuration politique a complètement changé pour les élections législatives. C'est là qu'on va se rendre compte, véritablement, de la vitalité résiduelle, à la fois du Front National et de l'image personnelle de sa dirigeante. Bon, faudrait-il qu'elle démissionne? En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Il y a des instances démocratiques au Front National, figurez-vous. Il y a le comité central.
Elles fonctionnent bien?
Fonctionnent pas du tout, puisqu'elles fonctionnaient beaucoup mieux du temps de Jean-Marie Le Pen, qui a pour habitude de dire que la démocratie a quelques inconvénients, mais elle a des avantages dont il faut se servir. Et notamment, les tours de table, écouter, faire la synthèse, ça faisait partie de la méthode Le Pen du temps de Jean-Marie. Pour ce qui concerne Marine Le Pen, visiblement, elle n'aime pas trop la contradiction. Elle a une façon de rejeter les gens dès qu'ils émettent un avis qui n'est pas strictement le sien. Et elle s'abstient surtout d'appliquer les statuts du Front National, qui consistent à s'appuyer sur un comité central qui ne s'est pas réuni depuis des années, alors que statutairement il doit apparaître tous les ans. Et puis il faudra bien, pour changer le nom, pour éventuellement changer la forme de ce mouvement, ou en faire un mouvement, comme vous dites, convoquer un congrès. Un congrès où le président d'honneur aura toute sa parole à donner, ils ne pourront pas le museler à cette occasion.
Puis vous savez, le culte du chef a quand même été toujours en vigueur au Front National.
Oui,
ça a toujours été extrêmement centralisé.
Il se trouve que le Front National était présidé par quelqu'un dont la personnalité était totalement écrasante et
exceptionnelle. C'est presque la hiérarchie du Parti communiste là que vous décrivez.
Non, pas du tout.
Parce que comité central, c'est quasiment des mots.
Mais vous avez la même chose dans toutes les formations politiques. C'est une question sémantique qui est un petit peu ancienne. Bon, bah, s'il s'agit simplement de trouver autre chose et de... Le Parti communiste a fait cet effort.
Mais il n'y avait jamais de doute sur le
Conseil national et plus de comité central.
On discutait, mais il n'y avait jamais de doute sur le chef.
Il se trouve que Jean-Marie Le Pen a une dimension personnelle, un charisme, une place dans l'histoire de ce pays qui sort un petit peu des normes. C'est comme ça.
Je veux dire c'est aussi que le Front National rime avec la marque Le Pen depuis 40 ans.
Mais vous ne pouvez pas en vouloir à Le
Encore
Pen.
Encore une fois, il a pistonné sa fille à tous les postes du service juridique au comité central en passant par le bureau politique, la vice-présidence en 2003.
Je peux donner la réponse que donne généralement Jean-Marie Le Pen à ce sujet-là. Il y a eu, au fond, au moment de la passation de pouvoir, deux choix possibles. Il y avait Bruno Gollnisch, il y avait Marine Le Pen. Bon, il se trouve que Jean-Marie Le Pen a considéré d'abord qu'une femme, ça n'était pas négligeable, que le nom Le Pen, ça n'était pas négligeable, et qu'il y avait un certain nombre d'inconvénients liés à la santé de Bruno Gollnisch qui faisaient que... Pour construire une présidentialité sur deux échéances, sur deux fois, sur cinq ans, en tout cas, 2011, 2012, puis 2017, bon, il fallait une force, une particularité. C'est la raison pour laquelle je crois pas qu'il ait soutenu sa fille pour des raisons exclusivement familiales, pas du tout. C'est que dans la situation du Front National à ce moment-là, c'est ce qui lui paraissait la chose la meilleure à faire. Bon. Il y a eu d'ailleurs à cette occasion.
Le Pen puisse perdurer quand même.
Mais c'est vrai que la marque, mais ça compte. Bon, après tout, la marque de Gaulle a perduré. Les enfants du général de Gaulle ont fait de la politique. Bon, voilà. C'était la marque de Gaulle, vous voyez. Et puis, la marque de Bray, ça a existé aussi. Puis, il y a la marque Kosciusko-Morizet. Enfin, il y a plein de marques. La marque Giscard.
Regardez,
la taille de l'entreprise est différente.
Il y a une spécialité quand même sur la PME Le Pen.
La marque Mitterrand, bon.
Un parti en France qui est repris de père en fille avec la nièce qui prend un mandat.
Mais
quand même
parce que la personnalisation autour de la personnalité même de Jean-Marie Le Pen a provoqué cela. C'est la qualité du dirigeant qui, quelque part, a imprimé la marque et la progression de ce mouvement. C'est comme ça. Bon, si les autres n'y arrivent pas, c'est peut-être parce qu'ils sont un petit peu faibles. Et puis, vous savez, En Marche, ça va mener où? On n'en sait absolument rien. Comment va fonctionner ce mariage entre la société civile et... ce qui sera résiduel des formations politiques avec l'expérience, etc. On n'en sait absolument rien. Quel est le véritable leadership du nouveau président de la République? Quelle majorité réussira-t-il à trouver ou pas? On n'en sait absolument rien. Donc on se polarise aujourd'hui sur le Front National parce qu'il est évident qu'il y a des fractures qu'il va falloir résoudre. Y arriveront-ils? Je ne le sais pas. Je pense que s'ils le font contre Jean-Marie Le Pen, ils se tromperont et que ça aura des conséquences. Bon, mais c'est le cas de toute la classe politique aujourd'hui, et notamment de la traduction législative de l'actuelle majorité présidentielle qui paraît paraît pour l'instant bien flou et animé de toutes sortes de conflits. Regardez ce qui se passe pour Manuel Valls aujourd'hui. Donc, après tout,
on verra bien. Du sujet qui était l'affaire de famille. Alberto, bonsoir. Vous êtes là, Alberto ? Vous n'êtes pas là. Si, j'ai entendu comme un petit filet de voix, non ? Est-ce que Julien est là, alors ?
Oui,
Julien est là ?
Oui.
Bonsoir. Oui, on vous entend très bien.
Oui, bonsoir.
Bienvenue,
merci
on vous écoute.
Ma question.
Je vous en prie.
Alors, je voulais dire que on parlait tout à l'heure de l'histoire du vote Le Pen, qui avait progressé, ou du vote FN, c'est pareil. Je voulais dire que le vote actuel est différent. Le vote actuel, c'est ce qui a été un peu dit, le Front National est assis sur une bulle qui est la contestation du système, qui se sont accaparés les premiers. Ce n'est pas seulement un vote xénophobe. Dans les 34% du Front National, ce n'est pas seulement un vote xénophobe. Et j'entendais un auditeur au tout début, ça nous ramène au début de l'émission, qui disait que la gauche radicale pétait les plombs ou perdait la tête. Non, la gauche radicale reprend le discours contre des gens qui sont contre la décision technocratique d'élite et essaie de reconnecter tout simplement les aspirations de la population avec la politique qui est proposée. Mmh. Et je pense qu'il faut changer de logiciel quand même sur l'état des champs politiques, parce que on essaie d'imposer un bipartisme entre ce qui serait les rationnels, les élites et les extrêmes. Je pense que ça favorise bien entendu le FN. Et le FN ne sera plus en bonne posture quand on commencera à entendre les gens qui se révoltent, qu'on fasse des lois par ordonnance pendant l'été, par exemple sur le code du travail.
Bien compris, voilà. Bien compris, Julien, le FN prospère. Merci de votre intervention. Le FN prospère sur un certain nombre de comportements politiques qu'une vraie gauche, dit Julien, en somme, peut rattraper, capter à nouveau et donc faire dégonfler la bulle FN, point d'interrogation, Marine Turchi.
Ça, c'est certain. Je suis tout à fait d'accord avec le constat de Julien là-dessus. Et d'ailleurs, le Front National prospère d'abord sur les échecs des autres partis et sur l'absence d'une vraie gauche qui aurait justement un peu plus écouté les classes populaires, le bas de la classe moyenne. Et le Front National c'est vraiment placé dans cette brèche-là. Donc ça, il n'y a aucun... je suis tout à fait d'accord. Après, sur le vote d'adhésion, pas vote d'adhésion, c'est un peu la question qui nous anime, nous, journalistes politiques, depuis des années. On doit quand même constater que les idées du Front National, elles ont diffusé. C'est un fait, il suffit de se balader dans la France, d'entendre un petit peu même les retours des cadres frontistes pour voir que ces idées, elles ont diffusé, et pas seulement dans la bouche des militants frontistes, et pas seulement dans la bouche du Front National. On voit aujourd'hui dans le Sud-Est combien la droite s'est recomposée d'ailleurs autour de l'extrême droite et pas l'inverse, et comment en PACA ce discours-là a infusé, et pas seulement. Donc là-dessus, je ne sais pas si ça s'appelle un vote d'adhésion, mais en tout cas, les idées de l'extrême droite, elles ont progressé.
Il reste 30 secondes. Lorrain de Saint-Afrique.
Oui, mais écoutez...
Une bulle que la gauche peut faire éclater.
Non. Oui, enfin, le
problème. C'était ça le sens de la question.
Alors, sur ce sujet-là, il est certain que tout le monde a observé la très grande qualité, il faut le reconnaître, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui aura forcément des conséquences. D'ailleurs, de tous les suffrages, de tous les chiffres du premier tour, moi, je retiens d'abord celui-là. Je retiens d'abord celui-là parce qu'il s'est passé quelque chose à gauche. Il y a une réimplantation, effectivement, et des racines populaires qui se sont réveillées en cette direction-là, parce que là aussi, on ne va pas le lui reprocher, il a fait preuve d'un talent et d'une perception de la société tout à fait remarquable.
Merci à tous les trois, Marine Turchi, journaliste à Mediapart. Marine est au courant de tout chez Flammarion. Aurélien Colli, journaliste politique à Inter. Lorrain de Saint-Afrique, collaborateur de Jean-Marie Le Pen. Le journal à suivre.